Nous sommes le 16 mars 2018 et voici au quotidien des quotidiens votre revue de presse avec vous pour les prochaines 90 minutes. François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Le 16 mars, c'est une date qui va être marquée au coin de l'opprobre dans l'histoire de l'armée américaine, puisque ça fait 50 ans aujourd'hui que le massacre de My Lai était commis au Vietnam, alors que 504 civils, des femmes, des enfants et des vieillards, étaient massacrés par une compagnie de l'armée américaine. Mais c'est pas tout ce qui s'est passé au fil des ans, ce jour-là, n'est-ce pas, Maurice?
Non, quelques autres trucs. Mais c'est horrible, ça, c'est une histoire de napalm, ça, j'imagine?
C'est une compagnie qui avait reçu une instruction de tirer sur tout ce qui bougeait. Et ils l'ont fait allègrement.
On va se tenir, comme dirait l'autre. 2005, à Vancouver, Ripou, Daman Malik et Ajab Bagri sont jugés non coupables d'avoir fait sauter un avion d'Air India qui avait fait 329 morts. En 1998, le président des communes, Gilbert Parent, interdit les petits drapeaux canadiens sur les pupitres des députés. En 1996, on inaugurait le Centre Molson. Le Canadien y jouait sa première partie pour battre les Rangers de New York 4-2 cette journée-là. En 1995, la capsule russe Soyouz TM-21 avait pour la première fois à son bord un astronaute américain et deux cosmonautes russes qui s'amarraient à la station orbitale Mir. En 1965, 1500 étudiants manifestent devant le consulat des États-Unis de Montréal, ici au Canada, pour protester contre la discrimination faite à l'égard des Américains de race noire qui ne peuvent utiliser leur droit de vote dans le sud des États-Unis. Mais on l'a vu 30 ans plus tard, plus ça change, plus c'est pareil. En 1955, le patron de la LNH, Clarence Campbell, suspend jusqu'à la fin de la saison, Maurice Richard qui avait frappé un juge de ligne. Et pour la petite histoire, il paraît que ce sera un peu le début de la Révolution tranquille.
Et c'est aussi l'origine de l'émeute du Forum qui a eu le lendemain.
Qui a suivi, C'était l'étincelle ensuite pour amener les libéraux en 1960. En 1915, c'est l'interdiction de fabrication et de vente de la liqueur d'absinthe en France. En 1851, le catholicisme devient religion d'État en Espagne et l'Église obtient le contrôle de l'enseignement et des journaux. En 1827, c'est la création à New York du Freedom's Journal qui sera la première publication de la communauté noire. En 1649, les jésuites Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand sont torturés à mort par des Iroquois à la mission Saint-Ignace près du lac Huron. Et en 1578, les lettres patentes du roi de France Henri III autorisent la construction du pont Neuf sur la Seine à Paris. Et on termine avec le roi Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui rompt avec le Vatican. J'ai quelques connaissances. Le physicien allemand Georges Simon Homme naît en 1787. Le compositeur russe Modeste Moussorgsky naît en 1800. Ah, bon, merci beaucoup. Mon accent russe est légèrement déficient. Et l'acteur comique Jerry Lewis, lui, naissait en 1926. Il nous a quittés il y a quelques mois. Ensuite, l'actrice française Isabelle Huppert qui est née aujourd'hui en 1955. On souligne deux décès. En 2001, la comédienne Juliette Huot nous quittait. Elle était née en 1912. Et l'homme de théâtre Gratien Gélinas, lui, nous quittait en 1999. Il était né en 1909.
Et voilà. Merci beaucoup, Maurice. Sans plus attendre, on s'en va immédiatement dans les pages de la presse où on parle d'abord de Camille Picard. Camille Picard, qui c'est? Si vous ne vous en rappelez pas, c'est le président par intérim de la Commission des droits de la personne et ça va mal pour son matricule. Nous signale Tommy Chouinard et Hugo Pilon-Larose. Camille Picard se retire de ses fonctions à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ, à la suite de l'enquête publiée dans la presse jeudi matin. Il a d'abord quitté son poste de président par intérim pour ensuite renoncer également à son poste de vice-président. La presse révélait jeudi que Camille Picard a fait l'objet d'une enquête policière en 2007 concernant des allégations d'agression sexuelle commises sur un mineur dans les années 80. Il aurait versé 50 000 $ à sa présumée victime en 2010 dans le cadre d'un règlement confidentiel à l'amiable qui stipule que le règlement est effectué sans reconnaissance ni admission de responsabilité de la part de Camille Picard. Le gouvernement et l'opposition étaient en discussion ce matin en vue de le démettre de l'ensemble de ses fonctions, pas seulement de la présidence. Il aurait pu y avoir dépôt d'une motion à l'Assemblée nationale pour destituer M. Picard, une mesure rarement vue. Mais M. Picard a finalement choisi de prendre la porte, de laisser tomber également la vice-présidence. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a déclaré ce matin que les faits dévoilés sont extrêmement troublants. Elle annonçait alors que M. Picard s'était retiré de la présidence, mais pas de la vice-présidence. Elle ajoutait que des pourparlers sont en cours et qu'il y aura d'autres étapes. La nouvelle du départ de M. Picard de toutes ses fonctions est tombée quelques minutes plus tard, au moment où le gouvernement et l'opposition étaient en discussion. Mme Vallée a réitéré ce que disait le cabinet du Premier ministre, à savoir que le gouvernement n'a jamais été mis au courant des faits présentés par la presse. Les habilitations sécuritaires n'ont pas fait ressortir cette situation-là, dit l'enquête de 2007. Vous comprenez que les enquêtes policières sont confidentielles, donc cette information n'a pas été portée à l'attention du gouvernement à l'époque, n'a pas non plus été portée à l'attention des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. Et M. Picard n'a jamais divulgué cette information-là lorsqu'il est entré en fonction. Que ce dernier n'ait pas informé le gouvernement de cette affaire entraîne-t-il un bris de confiance? Ça amène effectivement des questions sérieuses. Véronique Yvon, vice-chef du Parti québécois, considère que M. Picard a posé les bons gestes en démissionnant de toutes ses fonctions de la commission. Ah, tirer la chasse d'eau à Montréal ne sera plus un geste anodin, mais bien une contribution à l'univers de la science. Pourquoi? Le titre de Pierre-André Normandin nous dit tout, l'urine des Montréalais dans la ligne de mire de Statistique Canada. Dans son laboratoire de l'Université McGill, Viviane Hiergeau s'apprête à participer à une étude de Statistique Canada afin de suivre à la trace la consommation de drogue au pays. Le projet pilote, qui analysera les eaux usées de six villes, dont Montréal, vise d'abord à évaluer les conséquences de la légalisation du cannabis, mais permettra également de brosser un portrait inédit de la crise des opioïdes qui frappe le pays. Pourquoi les eaux usées? L'urine ne ment pas, explique la chercheuse. Alors que le gouvernement s'apprête à légaliser le cannabis à l'été, Statistique Canada s'attelle depuis plusieurs mois à trouver une façon d'évaluer l'ampleur de la consommation de marijuana au pays. La substance étant encore illégale, obtenir des données fiables est difficile par l'entremise de sondages, de nombreux répondants préférant taire leur consommation de la substance. L'agence a ainsi décidé de se tourner vers des méthodes non traditionnelles, une façon sobre d'indiquer que l'on compte analyser les eaux usées de certaines villes afin de détecter les drogues excrétées par les consommateurs dans leur urine. C'est un projet pilote. Alors on va commencer avec 6 municipalités pour voir si les résultats sont fiables. On va faire cela sur plusieurs mois et si on trouve que les résultats sont bons, on va sans doute le déployer dans d'autres municipalités au Canada, explique Tony Peluso, gestionnaire du programme sur le cannabis à Statistique Canada. La liste des civils qui serviront de banc d'essai n'a pas encore été officiellement annoncée, mais la Ville de Montréal a confirmé à la presse en faire partie. Les premiers résultats sont attendus dès la mi-avril. L'analyse des eaux usées pour évaluer la consommation de drogue est une technique utilisée depuis 10 ans par des chercheurs européens. Le groupe central d'analyse des eaux usées, mieux connu sous son acronyme anglais SCORE, le groupe s'est élargi depuis quelques années pour couvrir un total de 80 villes de 28 pays, dont Montréal et Granby. La méthode a fait ses preuves, assure Viviane Hiergeau, professeure en génie chimique à l'Université McGill. La chercheuse qui collabore depuis 10 ans à ses travaux européens est d'autant plus emballée par ce projet que ça ne s'est jamais fait à cette échelle. Statistique Canada est vraiment à l'avant-garde. Comment ça marche? Pour évaluer la consommation de drogue dans une ville, des échantillons sont prélevés à l'entrée des usines de traitement des eaux usées. Après quelques manipulations, l'eau est passée à travers un filtre spécialement conçu pour retenir les drogues dissoutes. Le produit de cette étape est ensuite mis dans un spectrographe qui dévoile la quantité de différentes substances présentes. En tenant compte du débit d'eau et de la population, on peut ainsi établir une consommation par personne. Dans le cadre du projet de Statistique Canada, pas moins de 19 substances seront testées, du cannabis au fentanyl, en passant par la cocaïne et le crystal meth. Et si vous vous posez la question, dans les 80 villes au monde qui sont testées selon cette méthode actuellement, Montréal se classe au 4e rang pour ce qui est du crystal meth, au 18e pour la cocaïne, au 54e pour les amphétamines, au 79e pour le MDMA, c'est l'ecstasy. Et ça nous vient du score. Alors voilà, pensez-y la prochaine fois que vous tirerez la chasse. En éditorial, Paul Journet revient sur l'affaire des pesticides et sur la relation entre le monde scientifique et le monde industriel dans ce domaine-là. La science contaminée, c'est son titre. Avec les pesticides, Québec continue de baisser la barre et continue malgré tout de s'y frapper les gencives. Ça ne se passe pas très bien. En 1992, l'objectif du gouvernement était de baisser leur utilisation de 50 %. En 2011, c'était désormais de ne les baisser que de 25 %. Malgré tout, leur utilisation augmente depuis, car on ne s'est pas attaqué à la source de la contamination, l'industrie qui contamine la science et incite à en utiliser plus. Cela pourrait changer un peu avec le nouveau règlement annoncé le mois dernier par Québec. Il marquera un pas dans la bonne direction sans toutefois corriger le cœur du problème. Le ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, y cible 5 pesticides. L'atrazine et le chlorpyrifos, ainsi que 3 néonicotinoïdes autorisés par Santé Canada malgré leur effet néfaste sur les pollinisateurs. Bonne nouvelle, la définition de ces pesticides est élargie pour comprendre désormais les semences déjà enrobées de ces molécules toxiques. Ils seront interdits en milieu urbain. Et pour les utiliser en milieu agricole, il faudra obtenir une prescription d'un agronome et noter leur épandage dans un registre. Les détaillants devront eux aussi en répertorier les ventes. Cela répond à une critique du vérificateur général qui déplorait l'année dernière l'absence d'un portrait global sur les pesticides. Mais est-ce que cela suffira pour en réduire l'utilisation? C'est loin d'être certain. Le gouvernement Couillard fait le pari que le système transparent de prescription forcera les agronomes à ne recommander que le strict nécessaire, mais il ne s'attaque pas à ce qui rend possible les abus, les conflits d'intérêts entre les agronomes et l'industrie et le manque de connaissances sur les autres solutions. Certains agronomes travaillent dans des clubs conseils, des groupes indépendants de l'industrie financés par l'État, mais la majorité d'entre eux continuent de recevoir de l'argent de ceux qui les fabriquent et ils continueront de s'appuyer sur des études financées aussi par l'industrie. Certes, il y a des bémols à apporter. La dangerosité des pesticides varie selon leur type et la quantité utilisée. Et on ne peut pas présumer que les agronomes sont malhonnêtes. Leur lien avec un fabricant a même un avantage, soit leur permettre de bien connaître les produits. De plus, le nouveau régime de prescription permettra d'identifier ceux qui en recommandent trop. Mais il y a néanmoins un réel malaise. La preuve, c'est que l'Ordre des agronomes lui-même a commandé l'automne dernier une étude sur la rémunération afin de vérifier si elle incite ses membres à trop promouvoir les pesticides. Ce travail devrait être achevé bientôt, probablement d'ici la fin du mois. D'ici là, l'Ordre des agronomes s'en remet à son code de déontologie. Or, ce code précise justement qu'un agronome n'est pas indépendant pour un acte donné s'il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel. Difficile de voir comment cela est compatible avec un revenu lié à la vente de pesticides. Pour s'en convaincre, remplaçons agronome par médecin. Accepterait-on qu'un médecin recommande un médecin un médicament puis le vende lui-même? À la décharge du gouvernement Couillard, mettre fin à ces conflits d'intérêts exigerait une vaste réorganisation du travail et une réécriture de la loi. Cela ne pourrait se faire avant la prochaine campagne électorale. Mieux valait donc changer la loi rapidement avec cette solution imparfaite, puis espérer que le prochain gouvernement finisse le travail. Mais il y a un second conflit d'intérêts encore plus préoccupant au sujet duquel on attend encore que Québec bouge. La troublante crise au Centre de recherche sur les grains du Québec. Les chercheurs qui critiquent les pesticides y sont contredits par des administrateurs payés par l'industrie. Le président du centre est même lobbyiste. Le malaise est tel que la moitié du personnel a démissionné. Or, ce centre continue d'être financé par le ministère de l'Agriculture. Il fallait s'y attendre. Jacques Metzing est un Sikh d'origine, donc. Et les Sikhs, ben, effectivement, sont une population de l'Inde qui a eu maille à partir avec la majorité. Alors, séparatisme Sikh, Jacques Metzing, ni défendre la violence. Un texte de Joël Denis, Belle Avance. Pour le chef du NPD, Jacques Metzing, les absents ont toujours tort. C'est pourquoi il a accepté de participer à des événements dans le passé, tels que le rassemblement tenu en 2015 à San Francisco, en Californie, qui visait à souligner la mort de 10 000 Sikhs lors de l'invasion du temple d'art d'Amritsar au Punjab, en Inde, en 1984. Si certains y voient un signe qu'il endosse la partition de l'Inde ou encore la violence préconisée par une frange du mouvement séparatiste Sikh pour faire avancer leur cause, ils font fausse route, a affirmé hier le chef néo-démocrate dans une entrevue accordée à la presse. J'ai toujours deux options chaque fois que quelqu'un m'invite à un endroit. Je peux dire oui pour partager mon message, mes valeurs et mes idées, ou je peux dire non et je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre pour parler et partager un message avec lequel je ne suis pas d'accord. Quand je suis confronté à ce choix, je choisis d'y aller pour partager mon message avec les membres de la communauté Sikh. Je comprends leur réalité, leur histoire qui est remplie de persécutions, de discriminations, de violences. M. Singh a ajouté qu'il appuie le droit des peuples à l'autodétermination, mais que de telles démarches doivent se faire sans violence. M. Singh a tenu ses propos hier après que le quotidien The Globe and Mail eut rapporté qu'il a aussi participé en 2016 à un séminaire d'indépendantistes sikhs en Grande-Bretagne, au cours duquel un militant a soutenu que la violence peut parfois aider la cause souverainiste. Dans une vidéo de 4 minutes, d'abord publiée sur YouTube par la Fédération nationale sikh du Royaume-Uni, on voit M. Singh discuter de souveraineté sans toutefois l'appuyer. Mercredi, le même quotidien avait rapporté que M. Singh avait participé au rassemblement de San Francisco en faveur de l'indépendance du peuple sikh.
Mon père aussi m'a marié, guélant là, je m'en vais rouler. Un incivil, il m'a donné, je me roule, roule. Guélant là, je m'en vais rouler, enfile la marque Noé.
Kate et Anna McGarrigle nous chantaient en filant ma quenouille.
Et nous voici déjà à aborder le devoir et plus particulièrement la question de l'eau potable. Ces dernières années, on l'a vu particulièrement en Gaspésie, il y a des municipalités qui sont inquiètes des activités de forage pétrolier, notamment à cause des activités de fracturation hydraulique qui risquent de contaminer leur prise d'eau potable. Québec a adopté une réglementation que beaucoup de villes trouvent trop généreuse. Alexandre Schild nous rapporte que la situation dégénère. Eau potable, Québec menacé de poursuites par 338 municipalités. Pas moins de 338 municipalités songent sérieusement à lancer une action en justice contre le gouvernement du Québec, a appris Le Devoir. Elles veulent ainsi obtenir le droit d'adopter des règles plus strictes que celles instaurées au niveau provincial pour la protection de l'eau potable lors des forages pétroliers et gaziers, ce que leur refuse le gouvernement Couillard. Nous sommes maintenant 338 municipalités sur l'ensemble du territoire du Québec, représentant près de 4 millions de citoyens, à réclamer le pouvoir d'imposer des distances plus sécuritaires entre nos sources d'eau potable et les éventuelles installations des sociétés gazières et pétrolières. Mais le gouvernement fait la sourde oreille. Alors on va prendre d'autres moyens, prévient Gérard Jean, maire de Lanoraie, dans une déclaration qui doit être publiée ce vendredi. Monsieur Lanoraie est porte-parole du comité de pilotage de la démarche lancée par les municipalités qui exige une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, mis en place par le gouvernement Couillard. Celui-ci, adopté en 2014, prévoit une distance minimale de 500 mètres entre une source d'eau et un forage. Les municipalités veulent plutôt porter cette distance à 2 km. À l'instar de ce qui a été mis en place à Ristigouche, partie sud-est, pour éviter tout risque de contamination de l'eau des résidents. La ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, a le pouvoir de leur accorder cette dérogation en vertu de la législation en vigueur, mais Québec refuse d'accéder à la demande des élus municipaux qui représentent près de la moitié de la population de la province. Le ministère considère que le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection repose sur des assises scientifiques solides et que les sources d'eau potable du territoire bénéficient déjà d'une excellente protection. Ces normes sont d'ailleurs parmi les plus sévères recensées, a d'abord expliqué au Devoir le cabinet de la ministre. La documentation reçue jusqu'ici par les différentes municipalités ne permet pas d'apprécier en quoi les caractéristiques particulières de leur territoire et les modes d'alimentation en eau de leurs citoyens nécessitent l'application de normes plus sévères que celles du règlement. De même, la documentation reçue ne permet pas de déterminer si les normes de leur règlement sont précisément celles qui s'avèrent les plus appropriées à la situation de ces municipalités, a-t-on ajouté. Qui plus est, la révision du règlement menée l'an dernier a confirmé, selon la ministre Isabelle Melançon, que les dispositions du règlement reposent sur des assises scientifiques solides et démontrent que les normes fixées sont toujours parmi les plus sévères. Il n'est donc pas question pour le moment de modifier les distances entre les forages et les sources d'eau potable. Les 338 municipalités, provenant de 69 MRC différentes, ne l'entendent toutefois pas ainsi. Leur comité de pilotage doit annoncer ce vendredi matin la tenue, le 24 mars, d'une rencontre à Drummondville où au moins une centaine de représentants municipaux discuteront de l'opportunité de recourir aux tribunaux pour obtenir une dérogation. Pour le juriste Richard Langelier, responsable du soutien scientifique à la démarche des municipalités, il ne fait aucun doute que leur demande est légitime. Accorder la dérogation aux municipalités ne signifie pas l'interdiction de l'exploitation pétrolière ou gazière. À savoir si on veut aller vers le développement de cette filière, c'est un autre débat. Mais si on va de l'avant, il faut à tout le moins s'assurer de protéger l'eau potable. On ne voit donc pas de motif qui justifie de refuser la dérogation. M. Langelier a aussi rappelé qu'une juge de la Cour supérieure a statué que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire, selon ce qu'on peut lire dans le jugement qui a rejeté la poursuite intentée par l'entreprise Gastem contre Ristigouche, partie sud-est. Aux prises avec une menace bien réelle d'action en justice en pleine année électorale, le gouvernement Couillard a finalement accepté de discuter avec les représentants des élus, et ce avant leur rencontre du 24 mars. Selon ce qu'a confirmé jeudi le cabinet d'Isabelle Melançon, une rencontre aura lieu mardi prochain, le 20 mars, à Québec. Le bureau de la ministre s'est toutefois fait avare de commentaires, soulignant seulement que le gouvernement pourra se prononcer par la suite sur les enjeux soulevés lors de la rencontre. La protection de l'eau et des sources d'eau potable a toujours été une priorité pour la ministre et notre gouvernement, a-t-on ajouté. En éditorial dans Le Devoir, on se penche sur la décision du gouvernement Couillard d'affecter une grande partie du Fonds des générations au remboursement de la dette dès maintenant. Notons que le Fonds des générations a été constitué pour rembourser la dette à l'origine. Remboursement de la dette, une manœuvre politique. À moins de 7 mois des élections, le gouvernement Couillard annonce qu'il remboursera la dette à raison de 2 milliards par an pendant 5 ans, à même les sommes accumulées dans le Fonds des générations. C'est avant tout une manœuvre politique qui ne change pas le portrait des finances publiques pour les marchés financiers, quoi qu'en dise le premier ministre. C'est inusité. Le gouvernement procède à l'annonce d'une mesure majeure du budget avant sa présentation. Philippe Couillard a soutenu qu'il procédait de la sorte parce qu'il souhaitait que les agences de notation de crédit prennent bonne note de ce remboursement de façon isolée dans l'espace médiatique plutôt que perdu dans un budget où il faut aller chercher et fouiller. Comme si les analystes de ces agences manquaient à ce point de perspicacité qu'ils étaient incapables d'accomplir leur tâche sans qu'on leur ouvre les yeux. D'ailleurs, les agences de notation contactées par Le Devoir ont indiqué que les sommes contenues dans le Fonds des générations sont déjà comprises dans le calcul de la dette du Québec. Qu'elles soient directement appliquées à la dette ou non, ne change rien fondamentalement. De fait, la seule conséquence financière de cette mesure pour le gouvernement, c'est de diminuer ses paiements d'intérêt, ce qui allégera ses dépenses annuelles de quelque 600 millions en moyenne. En revanche, le Fonds des générations ne pourra compter sur les revenus qu'il aurait encaissés en plaçant cette somme, revenus qui sont habituellement plus élevés que le coût d'emprunt du gouvernement. Il faut dire que ce fonds créé en 2006 remplit ses promesses et même plus. Doté de 13 milliards à l'heure actuelle, alimenté essentiellement par des redevances hydrauliques versées par Hydro-Québec, le fonds continuera de croître de quelques milliards par an au cours des prochaines années. L'objectif de réduire à 45 % le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut d'ici 2025-2026 est atteint 3 ans plus tôt. Hormis Québec solidaire, les partis d'opposition ont salué la décision du gouvernement. Tant le Parti québécois que la Coalition Avenir Québec semblent avoir rangé leur proposition de piger dans le Fonds des générations. Restez avec nous, on fait une courte pause et on revient avec les pages du Journal de Montréal.
La formation Brunswick qui vient de nous chanter Un degré de séparation.
Journal de Montréal et on commence avec une nouvelle que je serais tenté de dire enfin. Diane Francœur, hier, est sortie. Diane Francœur, c'est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes et elle est venue dire pourquoi les augmentations accordées aux spécialistes étaient normales, tout à fait acceptables et n'avaient rien d'excessif. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas convaincu José Legault qui signe un éditorial dans les pages du Journal de Montréal de la poudre aux yeux. C'est son titre. L'auguste présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francœur, a finalement daigné se pointer en public. Flanquée de son négociateur et ex-premier ministre Lucien Bouchard, elle a présenté sa version de l'entente controversée sur la rémunération des spécialistes. Jonglée avec les chiffres, telle est la vraie spécialité de la Dr. Francœur. Après avoir joué à la victime des médias depuis des mois, elle en a lancé des chiffres. « Cette entente n'est pas facile à comprendre », répétait-elle, comme si le bon peuple qui signe le chèque manquait de neurones pour la comprendre. Que de poudre aux yeux elle a lancé sur cette nouvelle entente, laquelle ajoutera encore aux augmentations déjà considérables, soit plus de 100%, accordées aux spécialistes au cours des 10 dernières années. Le tout sans bonification de l'accès aux soins. En février, le Conseil du Trésor avançait d'ailleurs que 2 milliards de dollars de plus leur seraient versés d'ici 8 ans. Oh joie! Dr. Francœur jure que la FMSQ se préoccupera dorénavant du bien-être des patients. Désolé, il aurait fallu y penser bien avant au lieu de passer aussi souvent à la caisse sous le tandem complaisant des docteurs Barrette et Couillard. Diane Francœur a aussi repris son refrain victimaire. « Des attaques acerbes, dit-elle, ont été faites contre les médecins. Le lien de confiance entre eux et leurs patients en a souffert. Or, personne ou presque ne s'en prend aux médecins. Ce qui est dénoncé est la gloutonnerie de la Fédération depuis 2007. Quant au lien de confiance, s'il est brisé, ce n'est pas entre les patients et les médecins, mais entre les contribuables, la FMSQ et le gouvernement Couillard. La distinction est essentielle. » Le pire, s'il s'en faut, c'est que rien ne change sur le fond des choses. Les mêmes dogmes trompeurs triomphent à nouveau. Le gouvernement et la fédération continuent de tabler sur le rattrapage avec le reste du pays, la clé de cet enrichissement exagéré depuis des années. Le Québec n'est pourtant pas une province riche. La Fédération des médecins spécialistes conserve aussi son pouvoir de distribuer elle-même les enveloppes de rémunération. Quel autre syndicat a un tel pouvoir de gestion directe des fonds publics? Lesquels, cette année, frôlent les 8 milliards, tous médecins confondus et sans vérification réelle par la RAMQ? Le nombre croissant de médecins millionnaires ne tient pas du hasard. Rien ne change. Pas de remise en question du mode de rémunération ni de certains privilèges fiscaux outranciers. Massive, la rémunération des médecins continuera aussi à vampiriser d'autres postes budgétaires en santé et en services sociaux. Pour améliorer l'accès aux soins, Diane Francœur lance quelques dizaines de millions de dollars ici et là. Une goutte dans l'océan des augmentations accordées depuis 10 ans. Ne reste donc qu'une solution. Que le prochain gouvernement fasse le grand ménage dans cette oligarchie médicale née sous le duo des médecins spécialistes Barrette et Couillard. Dans une société vieillissante, aux besoins en expansion constante, ça urge. Dans l'actualité internationale, la nouvelle James Bond de l'année, en fait, c'est cet empoisonnement survenu en Grande-Bretagne d'un ex-agent soviétique et de sa fille au moyen d'un agent d'un gaz neurotoxique, finalement, présumément envoyé par la Russie. Ça met de l'eau dans le gaz un peu partout et on se demande si on peut calmer le jeu actuellement. Ex-espion russe empoisonné, l'OTAN ne veut pas d'une nouvelle guerre froide, c'est le titre de l'agence France-Presse. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé vendredi la Russie à coopérer sur l'affaire Skripal, assurant que l'Alliance ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide. « Nous avons ce que j'appellerais une approche à deux voies vis-à-vis de la Russie », a-t-il déclaré sur les ondes de la BBC. Il y a d'un côté la dissuasion, la défense, et de l'autre le dialogue, parce que nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements, a-t-il ajouté. La Russie est notre voisin, donc nous devons continuer à nous efforcer d'améliorer nos relations avec la Russie, a-t-il insisté, estimant que l'isolement de la Russie ne saurait être une alternative. À un moment, la Russie va comprendre qu'il est dans son intérêt de coopérer avec nous, pas d'aller à la confrontation, et nous sommes prêts à le faire s'il respecte certaines normes et règles de base des relations internationales, a-t-il dit. L'empoisonnement sur le sol britannique de l'ex-espion Sergei Skripal a pris ces dernières heures des allures de confrontation Est-Ouest. Les alliés occidentaux désignent la Russie d'une même voix. Mercredi, la première ministre britannique, Theresa May, avait affirmé que Moscou était coupable de cette attaque commise, selon elle, au moyen d'un agent innervant appartenant au groupe des agents Novichok, mis au point par la Russie. « Nous n'avons aucune raison de douter des conclusions et des évaluations faites par le gouvernement britannique, notamment parce que cela s'inscrit dans un contexte de comportement irresponsable de la part de la Russie depuis de nombreuses années », a dit vendredi Jens Stoltenberg. Sur le plan politique, la mise en cause de la Russie a créé des remous au sein de l'opposition travailliste britannique, dont le chef Jeremy Corbyn a été vivement critiqué, y compris dans son camp, pour ne pas avoir désigné Moscou sans équivoque. Dans une tribune publiée dans le Guardian, Corbyn appelle Theresa May à ne pas se précipiter, rappelant l'exemple de l'invasion de l'Irak en 2003 lancée pour détruire des armes de destruction massive présumées qui ne seront jamais découvertes. Le Royaume-Uni doit demander des comptes aux auteurs de cet acte, mais pour autant, ce n'est pas le moment de porter des jugements hâtifs qui pourraient conduire à une nouvelle guerre froide, écrit-il. Les preuves pointent vers la Russie, dit-il, ajoutant toutefois qu'un lien avec des groupes mafieux russes installés au Royaume-Uni ne pouvait être exclu. Et cet incident prend place dans un autre continuum d'incidents. Je vous rappelle que voici quelques années, un ancien espion russe avait également été empoisonné au polonium, une matière radioactive, qu'il avait d'ailleurs tué pendant quelques mois d'une manière absolument cruelle. Alors, on peut s'interroger, l'utilisation d'un agent toxique par un gouvernement étranger sur un autre territoire que le sien est un acte de guerre, ce qu'a d'ailleurs dénoncé le Canada. Difficile de rater cette nouvelle-là aujourd'hui à Miami, une passerelle toute neuve, tellement neuve qu'on n'avait même pas fini de l'attacher et de l'ajuster, s'est effondrée. Effondrement d'un pont à Miami, au moins 6 morts, un texte de l'agence France-Presse. Le bilan de l'effondrement d'un pont piétonnier sur une autoroute à Miami s'est alourdi à au moins 6 morts, a annoncé vendredi la police, alors que les recherches se poursuivaient au lendemain de l'accident. 10 personnes ont été hospitalisées, a précisé à la presse le porte-parole de la police de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta. Les secouristes ont travaillé toute la nuit et l'opération se concentre désormais sur la recherche de corps, a-t-il ajouté. Les ingénieurs redoutent un effondrement des structures aux deux bouts de l'ouvrage posé samedi et qui n'était pas encore ouvert au public. « Le pont dans son intégralité est en danger », a déclaré M. Zabaleta. Le pont de 950 tonnes devait relier l'Université internationale de Floride au bâtiment où logent les étudiants. 8 voitures au moins ont été prises au piège lors de l'effondrement du pont jeudi sur une autoroute à 6 voies.
changer le monde, changer d'allure et de coiffeur. Je vais me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. J'ai changé le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je vais faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire. Faire le contraire, je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou cochon, je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de somnambules ou d'arachides? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses, je vais changer le monde.
Jim Corcoran nous chantait « Je vais changer le monde ».
Actualité régionale, et on commence dans la région d'Ottawa-Gatineau, dans les pages du droit, qui nous rapporte une étrange affaire dans la manière de contrôler la presse. Est-ce qu'on peut s'en prendre aux journalistes en se plaignant à la police? Ça semble être la stratégie qui a été adoptée par une personne qui ne voulait pas être interviewée. Charles-Antoine Gagnon nous en parle, son titre « Journaliste arrêté pour harcèlement criminel ». Un reporter de Radio-Canada Ottawa-Gatineau a été arrêté par la police mardi soir à la suite d'une plainte pour harcèlement criminel découlant d'une enquête journalistique. La plainte a été déposée par la directrice générale des Grands Frères Grandes Sœurs de l'Outaouais, Yvonne Dubé, qui faisait l'objet d'un reportage la présentant comme l'avocate qui n'en était pas une. Le journaliste ciblé par la plainte, Antoine Trépanier, travaillait sur un dossier révélant que Mme Dubé s'est faussement présentée comme avocate et a pratiqué le droit sans autorisation de septembre 2011 à mars 2012. La Société d'État a obtenu une décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans laquelle un juge indique que Mme Dubé doit cesser de façon permanente de pratiquer le droit sans autorisation et de ne plus fournir des services juridiques non autorisés, a repris Radio-Canada dans son reportage diffusé jeudi soir. Selon le reportage, Mme Dubé a consenti à la décision du tribunal, mais lors d'un entretien téléphonique avec M. Trépanier, elle a nié avoir représenté des clients comme avocate. Le chef de l'information et des émissions d'actualité de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Martin Gauthier, précise que Radio-Canada a offert à Mme Dubé de lui accorder une entrevue formelle en personne et qu'elle l'aurait déclinée au dernier moment après l'avoir acceptée. Le lendemain, le journaliste a renvoyé un courriel à Mme Dubé pour réitérer l'offre d'entrevue. Par la suite, Mme Dubé a porté plainte au service de police de la ville de Gatineau contre le journaliste Antoine Trépanier pour harcèlement criminel, a écrit M. Gauthier dans une note. Le journaliste a reçu un appel du service de police de la ville de Gatineau vers 21h le 13 mars, alors qu'il était chez lui. La police lui a signifié qu'il était en état d'arrestation à la suite d'une plainte de harcèlement criminel et qu'il devait se rendre au poste de police ou que les policiers pouvaient aller à sa rencontre chez lui. Après consultation avec les avocats de Radio-Canada, M. Trépanier s'est rendu au poste de police de Gatineau un peu avant minuit, accompagné de sa réalisatrice coordonnatrice et du chef de l'information. La police de Gatineau lui a fait signer une promesse de comparaître et il fut libéré. M. Trépanier s'est vu imposer la condition de s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mme Dubé et de se rendre à sa résidence ou à son lieu de travail. Il devra aussi notifier le service de police de tout changement d'adresse d'emploi ou d'occupation. La date du 20 juin a été retenue pour sa comparution et pour l'instant, le directeur des poursuites criminelles et pénales n'a toujours pas déterminé si des accusations allaient être déposées contre le journaliste, a rapporté Radio-Canada. Et il y a fort à parier que l'affaire ne connaîtra pas de suite judiciaire. Cependant, c'est la technique employée qui est intéressante, se plaindre à la police parce qu'un journaliste veut vous parler. « À Gatineau, toujours angoisse pour les parents puisque 4 jours de grève sont à prévoir dans les CPE, ce que rapporte Julien Paquette avec Jacques Normand Sauvé. 17 centres de la petite enfance de l'Outaouais pourraient être fermés pendant 4 jours la semaine prochaine si les négociations en cours avec la partie patronale ne progressent pas davantage. Le vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, Christian Meilleur, a expliqué au droit jeudi soir que les négociations se poursuivaient toujours et que le syndicat pourrait faire le point avec les médias sur l'état de la situation ce vendredi en début de journée. Il y a eu séance de médiation entre les parties syndicales et patronales mercredi et jeudi de cette semaine. S'il n'y a pas de progrès, les syndiqués de la CSN pourraient monter le ton, soutient M. Meilleur, qui affirme qu'on est à un point tournant des négociations actuellement. À l'automne dernier, les employés de CPE, membres de la FSSS-CSN, ont adopté un mandat de 6 jours de grève. Jusqu'à présent, 2 journées de mobilisation ont été utilisées. Questionné à savoir s'il pourrait y avoir 4 jours de grève la semaine prochaine, Christian Meilleur indique que le scénario est toujours plausible. En février, la vice-présidente à la négociation et au grief du syndicat des travailleurs en centre de la petite enfance de l'Outaouais, Najwa Zitouni, indique en entrevue au droit que les horaires de travail, le choix des groupes et les périodes de repos sont au nombre des éléments qui achoppaient en ce moment dans les négociations locales. Les syndiqués aimeraient notamment que chaque CPE puisse avoir ses propres clauses adaptées à leur réalité au lieu de clauses régionales s'appliquant à toutes les installations. Si vous l'ignorez encore, il va y avoir un G7 au Canada au début de l'été, voilà. Et ça va être au Québec plus principalement, oui, à la Malbaie. On en est à réserver des campings à Ottawa pour réussir à loger le personnel, notamment le personnel de sécurité affecté à l'événement. Vous doutez encore de la démesure du sommet du G7 qui aura lieu à Québec et à la Malbaie les 8 et 9 juin? Le gouvernement fédéral, l'armée et les policiers ont réservé des chambres à coups d'hôtel complet. Même des campings de Charlevoix sont réquisitionnés, a remarqué le Soleil. Les forces de l'ordre ont notamment mis la main sur le camping Le Genévrier de Baie-Saint-Paul. Celui-ci est situé à 50 km du manoir Richelieu de la Malbaie, site principal de la rencontre des puissances économiques. La clientèle annuelle de l'entreprise pourra toujours s'y rendre, mais les policiers interdiront l'accès à toute autre personne, nous explique la réceptionniste Linda Lemieux. Le directeur Yves Froment se réjouit de la manne. En pleine période creuse, l'ensemble du site est monopolisé dès la fin mai pour une 20aine de jours. Ottawa aurait choisi le Genévrier, entre autres, pour ses chalets logeant de 4 à 8 personnes. Les 35 ont été loués en bloc. M. Froment avertit les retardataires du sommet. De Sainte-Anne-de-Beaupré aux Escoubins, beaucoup de locataires sont en négociation, beaucoup d'autres ont déjà signé un contrat. Le choix s'amenuise, selon lui. Du côté du camping au bord de la rivière et Motel Riviera de la Malbaie, le propriétaire Dominique Bergeron confirme d'ailleurs lui aussi que les autorités logeront dans son établissement. Ancien policier, il ne donnera toutefois pas plus de détails, une question de sécurité et de confidentialité, dit-il. Selon son site de réservation en ligne, il n'y a pas de disponibilité entre le 20 mai et le 12 juin. Chez son voisin, les Chalets Riviera, la dizaine d'unités ont également trouvé preneur. Tout est loué, indique Richard Morin. Le tout par le même client qui s'installera ici, comme chez les précédents, dès le mois de mai. Il semble en outre que la Défense nationale avait l'œil sur les villas et le camping des Érables, établi juste au bout du golfe du manoir Richelieu à l'intérieur du périmètre de sécurité. Les militaires étaient à la recherche d'un grand terrain pour ériger un campement, affirme l'hôte Jean-Jacques Tremblay. Les partis n'auraient toutefois pas réussi à s'entendre. Il aurait en plus reçu la visite de représentants du Japon en quête de logis et d'émissaires du gouvernement fédéral. Tout ceci pour vous dire que si vous voulez aller dans Charlevoix au début de l'été, attendez. Oui, brièvement encore, c'est aujourd'hui qu'on va reconnaître les tenants et aboutissants du projet de tramway à Québec que doit dévoiler Régis Labeaume. Pour cette raison-là, je réserve mon envie de vous en parler immédiatement et je vous en parlerai donc la semaine prochaine. On passe à Sherbrooke où la Tribune nous parle d'une entente éventuelle entre la Fédération québécoise des municipalités et Desjardins. Pour faire quoi? Pour sauver les guichets automatiques en région. Roxane Ocampo de la Presse canadienne. La Fédération québécoise des municipalités et le Mouvement Desjardins tenteront de parvenir à des ententes locales pour le maintien des guichets en région. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, s'est réjoui jeudi de la volonté de l'entreprise de se rencontrer à mi-chemin au terme d'une rencontre avec le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier. De 2015 à 2017, Desjardins a retiré une centaine de guichets. À la fin décembre, on en dénombrait 2049 à travers la province. En point de presse, M. Demers a expliqué que la formation d'un comité mixte chargé d'apporter des pistes de solutions et de les mettre à l'essai favorisera la prise en compte des particularités régionales. « On veut être sûr que les gens de la communauté font partie de l'équation », a-t-il martelé. Le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, en Estrie, prône des solutions au cas par cas. Il souligne que certaines municipalités ont déjà réussi à maintenir leur guichet en place en l'hébergeant au sein même de l'hôtel de ville, en mettant leur propre personnel à profit ou encore en concluant un accord avec le dépanneur du coin. Il dit ne plus s'étonner qu'il revienne aux élus locaux de se démener pour la vitalité des milieux ruraux. « On se bat pour garder tous nos services », s'est-il désolé. On est dans des combats continuels. Pour moi, ce n'est pas une surprise. En entrevue avec la Presse canadienne, une porte-parole de Desjardins a toutefois souligné que la décision de fermer un guichet est prise au sein même de la communauté concernée, soit par le conseil d'administration de la caisse locale. Valérie Lamarre a précisé que le taux d'utilisation des machines est parfois tout simplement insuffisant, alors que seulement 7 % des transactions s'effectuaient par l'entremise de guichets automatiques chez Desjardins l'an dernier. Les guichets qui restent sur le territoire sont maintenus grâce à l'utilisation, a-t-elle martelé. C'est toujours ça la question principale. Or, leur achalandage a dégringolé de 30 % en 5 ans, tandis que le nombre de transactions effectuées par l'intermédiaire des services mobiles et Internet a grimpé de 72 %. On sait qu'on est dans une période de transition. On n'est pas en train de dire qu'on va empêcher toutes les fermetures, concède Jacques Demers. Il ne faut plus penser la machine telle qu'on l'avait. Desjardins dit d'ailleurs accompagner ses membres dans ce passage aux nouvelles technologies en se dotant, par exemple, de terminaux pour les paiements par carte et en y facilitant les retraits avec achat dans les commerces. À Trois-Rivières, Paul Vermeaux Desroches se penche sur les éventuelles inondations qui risqueraient d'intervenir ce printemps. Inondation Hydro-Québec prête à tout. Bien qu'il soit encore difficile de prédire à quel genre de crue printanière la région sera confrontée cette année, Hydro-Québec est déjà en mode préparation à la grandeur du bassin versant de la rivière Saint-Maurice afin d'amoindrir les impacts de la crue des eaux pour les municipalités riveraines et les usagers de la rivière. La Société d'État, qui mène actuellement une campagne d'information auprès des municipalités concernées et des médias, constate d'ailleurs que le couvert de neige à ce jour est moins imposant qu'à pareille date l'an dernier. On fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté pour aborder les actualités culturelles. We'll be right back.
Je suis venu te dire que tu peux changer.
Il s'appelle Hubert Lenoir et il nous chantait « Fille de personne ».
Actualité culturelle et je commence immédiatement dans la région de Gatineau. Si vous êtes un habitant de la région ou même d'un peu plus loin, que vous aimez la danse, ce qu'il ne faut pas rater en fin de semaine, c'est le festival Hit the Floor Gatineau. Bon, en dehors de son nom légèrement anglophone, c'est un festival qui permet de mettre en compétition des troupes de danseurs d'un peu partout. Ça a lieu au casino du lac Lémy et toutes les formes de danse ou à peu près sont abordées puisqu'on va autant évaluer donc des danseurs de ballet, de danse contemporaine, de jazz, de claquettes ou de danse urbaine comme le hip-hop, le breaking ou le walking. Donc si vous ne savez pas quoi faire, demain a lieu le gala de clôture à 21h au casino. Ça pourrait être une excellente sortie. Puisque je vous en ai parlé maintenant, vous me pardonnerez de ne pas vous lire le texte que le droit a consacré au sujet. Immédiatement, je vous ramène à Montréal où on parle d'art souterrain, du labeur tous azimuts, un texte d'Éric Clément publié dans la presse. Tous les aspects du travail et de l'absence de travail sont évoqués par la centaine d'artistes invités à présenter leurs œuvres dans le cadre du 10e festival Art souterrain à Montréal. Une déclinaison artistique qui permet de découvrir des créations fascinantes sur la réalité du travail dans le monde. Cette année, nous avons parcouru Art souterrain en partant du Mail de la Gauchetière pour retourner 2h30 plus tard au complexe Guy Favreau. On se rend ici en métro au point de départ et on revient à pied après avoir rencontré des dizaines d'œuvres, toutes reliées au thème du travail et sans aucune impression de redondance. Dans les aires publiques du Mille de la Gauchetière, à côté de la très en vogue Jeannick Deslauriers et de ses ingénieuses sculptures de fil, une échelle et un marteau-piqueur, on a bien aimé le bureau en béton de Patrick Burubé et la vidéo Real Snow White tournée en 2009 par Pilvi Takala. L'artiste finlandaise s'était déguisée en Blanche-Neige pour visiter le Disneyland français près de Paris. Les touristes arrivant au parc se sont précipités pour la prendre en photo avec leurs enfants, mais elle a été refoulée par les gardiens du parc d'attractions parce qu'elle aurait pu nuire à la vraie Blanche-Neige. Une vidéo intéressante sur les valeurs et les vendeurs d'illusions. On retrouve Pilvi Takala en fin de parcours avec The Trainee, vidéo réalisée en 2008 à Amsterdam. L'artiste s'était fait embaucher comme stagiaire chez Deloitte, mais n'y a fait strictement rien, ce qui a troublé ses collègues. Le passage de la vidéo où, inerte, elle monte et descend dans l'ascenseur sous l'œil intrigué des employés est hilarant. Plus loin, place de la Cité internationale au SCI, une série de photos d'Alana Riley dérange nos méninges. Plusieurs personnes ont été photographiées dans leur environnement de travail et dans celui qu'elles auraient connu si leur rêve de jeunesse s'était réalisé. Intéressant concept. On réalise alors qu'il n'est pas facile de savoir si cette femme est juge ou gardienne d'enfants, si celle-ci est journaliste ou chanteuse de cabaret, ou si cet homme est archiviste ou évêque. Au sous-sol de l'édifice Jacques Parizeau, le photographe français Raphaël Dalla Porta expose sa série « Esclavage domestique », une série qui sensibilise le visiteur à la cause des employés domestiques victimes d'abus par leurs employeurs privés. Avec des images des façades de résidences de la région parisienne où elles ont travaillé, accompagnées de précisions sur leurs mésaventures. Un esclavage moderne choquant. Et un corpus exemplaire de la part du photographe de 37 ans. Au Palais des Congrès, l'œuvre murale Quiero Trabajar du Roumain Ciprian Omorodean vaut le détour. Elle est constituée d'affichettes créées par l'artiste pour qu'il puisse trouver un emploi en Espagne comme serveur, jardinier, décorateur, peintre ou homme à tout faire. Un exercice artistique qui renvoie aux besoins essentiels de bien des artistes. Dans la grande allée du Palais des Congrès, il ne faut pas manquer la grande photo d'une usine d'un sous-traitant d'Apple en Chine, prise par Emmanuel Laflamme. L'édifice est entouré de filets anti-suicide qui visent à empêcher les employés de se jeter par la fenêtre. L'usine chinoise, fabricant des iPhones, a connu ces dernières années une grande vague de suicides provoquée, selon des sources, par la monotonie du travail et un salaire insuffisant. Entre le Palais des Congrès et le complexe Guy Favreau a été exposée la série Carpoolers de l'artiste mexicain Alejandro Cartagena, des images d'ouvriers transportés chaque jour dans la caisse arrière de camionnettes entre leur domicile et leur lieu de travail. Certains dorment, d'autres lisent le journal ou regardent le paysage, un documentaire sur la routine et les conditions de travail. Peu après, beau reportage de l'Italien Paolo Patrizzi sur des prostituées nigérianes qui reçoivent leurs clients en pleine nature dans le sud de l'Italie. Sur un matelas, la paille d'un champ de blé ou un bout de carton. Des images dépouillées et lourdes de sens. Le 10e festival d'art souterrain a lieu jusqu'au 25 mars dans le réseau souterrain piétonnier et 9 lieux satellites. Consultez le site du festival artsouterrain.com. Dans le monde du cinéma, on parle relativement peu des courts-métrages. Anne-Marie Gravel le fait dans Le Quotidien, donc à Saguenay. Patrick Bouchard se dévoile dans Le Sujet. Au fil des ans, Patrick Bouchard a présenté tous ses films à regard. Cette fois, par contre, la projection de son dernier court-métrage, Le Sujet, prend une dimension un peu différente. Le cinéaste qui a grandi à Chicoutimi revient chez lui avec son film le plus personnel en carrière, un court-métrage d'animation de 10 minutes qui le met lui-même en scène. À quelques heures de la projection de son film, Patrick Bouchard est heureux et fébrile. Chaque année, il se fait un devoir et un plaisir de participer à Regard, un festival qu'il a vu naître et dans lequel il s'est impliqué. Lorsqu'il peut y présenter une de ses créations, le plaisir de celui qui a remporté le Jutra du meilleur court-métrage d'animation avec 3 de ses 5 films, Les Ramoneurs cérébraux, Dehors novembre et Bidlo, est exponentiel, mais cette fois, la présentation de Le Sujet génère aussi une part de stress. Ça me stresse un peu, car ce film-là est tellement près de moi. Je me dévoile là-dedans, je suis allé loin. C'est définitivement mon projet le plus personnel, c'est un peu aussi ma crise de la quarantaine, explique-t-il. Le Sujet, produit par l'Office national du film, met en scène un animateur qui fait face à son alter ego sous la forme d'un moulage de son propre corps. il ouvre son corps et découvre à l'intérieur toutes sortes d'objets liés à sa vie. Il en extirpe les souvenirs, les émotions, les angoisses et parvient à identifier le poids dont il veut se défaire. Dans la presse, Chantal Guy se penche sur la littérature québécoise et notamment sur les tendances qui la marquent. Je vous en donne quelques-unes. La première, Fuir Montréal ou le retour du régionalisme. L'une des tendances lourdes observées depuis 2000 est un retour au régionalisme dans les romans, comme dans les maisons d'édition qui se multiplient hors de Montréal. Bref, si autrefois il fallait arriver en ville pour devenir écrivain, on dirait aujourd'hui qu'il faut en sortir. Cela a même mené à des expressions assez drôles comme le néo-terroir ou l'école de la chainsaw, entendre chainsaw évidemment. Cette dernière étant une boutade de l'essayiste Benoît Melançon. Je pense qu'il y a un intérêt nouveau pour la région, mais pas du tout dans une perspective terroiriste ou folkloriste, explique Martine-Emmanuel Lapointe. Je n'enfermerai pas cela uniquement dans la régionalité, mais dans une exploration des territoires imaginaires. C'est important et même frappant. L'espace est beaucoup moins exclusivement montréalais, affirme François Dumont, comme si la nation n'était pas un concept, mais aussi des lieux, et pas que des lieux montréalais. On n'est pas dans la nostalgie ni dans la conservation, on revoit plutôt les lieux autrement. Parfois, on n'est plus au Québec, mais en même temps, est-ce que ça pourrait vraiment s'écrire ailleurs? C'est clair que ce n'est pas un retour au régionalisme des années 1910. On est loin de Claude-Henri Grignon, explique Jean-François Chassé. Dans les années 90, on pensait que sans Montréal, la littérature n'existerait pas, observe David Bélanger. Mais dans les années 2000, toute une production s'est faite contre cette idée du roman d'un trentenaire en peine d'amour dans son appart du plateau. On dirait qu'en allant en région, on est dans un autre monde. La légende est possible et encore vivante. On peut sortir de la ville comme carcan qui oblige un certain imaginaire, mais aussi sortir des institutions littéraires. Ce qu'on met en scène, ce sont des personnages qui ne sont pas caractérisés par les lettres. Au Québec, ce carcan pèse comme si c'était lié aux origines fantasmées qu'on donne à notre littérature. Des exemples, Arvida de Samuel Archibald, Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, Tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert. Autre tendance, l'oralité décomplexée. Le débat sur l'utilisation du joual a longtemps fait rage après Les belles sœurs de Michel Tremblay. C'est peut-être la querelle esthétique la plus importante de la littérature québécoise dont on sent encore les restants dans le débat autour du franglais utilisé par les rappeurs. Mais une chose est certaine dans les années 2000. L'oralité, le langage familier sont énormément utilisés dans la production littéraire, et cela de manière tout à fait décomplexée. C'est devenu un choix avant tout esthétique, bien plus que politique. Chez les jeunes écrivains, il n'est pas question de normes qui se posent dans l'écriture, observe Martine-Emmanuel Lapointe. Dans les années 60-70, les écrivains qui distordaient la langue comme régent du charme le faisaient en ayant en tête une norme, avec sans doute un certain désir de rupture à ses frondeurs. Les jeunes écrivains n'écrivent pas l'oralité pour se révolter par rapport à une langue établie. C'est plus une manière d'expérimenter la langue d'écriture. Je dirais que c'est plus le registre familier, une façon d'écrire comme on parle, d'approcher un certain naturel, une authenticité, affirme François Dumont. Des exemples? Malgré tout, on rit à Saint-Henri de Daniel Grenier et Au pire, on se mariera de Sophie Bienvenu, La vie littéraire de Mathieu Arsenault. Troisième tendance? Puissance des maisons d'édition non généralistes. Nées pour la plupart dans les années 2000, elles ont profondément changé le paysage littéraire du Québec. Nous parlons des nouvelles maisons d'édition comme Marchand de feuilles, Alto, Le Cartanier, La Peuplade, Mémoire d'Encrier, Héliotrope, Hamac, L'Écrou. Elles ont brisé le monopole des grandes maisons établies, bousculé les prix littéraires et imposé de nombreuses nouvelles voies. Ce sont des maisons souvent créées par des éditeurs qui ont l'âge de leurs écrivains, note Jean-François Chassé, et les deux vont main dans la main, selon Catherine Mavrikakis. Le rapport à l'éditeur est beaucoup plus fort chez les jeunes. Ce sont des gens qui travaillent dans une grande proximité avec leurs auteurs, mentionne Catherine Mavrikakis. La plupart de nos spécialistes s'entendent pour dire que le tournant se situe autour de 2005, qui est aussi le tournant des réseaux sociaux, dont ces maisons et ces écrivains vont se servir allègrement. Il y a clairement un changement de paradigme, un déplacement, soutient Marie-Emmanuelle Lapointe, qui voit dans les résultats non pas des écoles esthétiques, mais des constellations, des rassemblements d'écrivains. Une autre tendance, l'autofiction et son ressac. Au début des années 2000, c'est l'explosion de l'autofiction, dont la figure la plus emblématique au Québec sera Nelly Arcan, qui fait d'ailleurs l'objet d'une véritable obsession auprès des étudiantes selon toutes les personnes interrogées. C'était une question très forte dans ces années-là, confirme Martine-Emmanuelle Lapointe, et on s'est rendu compte que l'autofiction n'était pas seulement dans les textes narratifs, mais qu'elle se retrouvait aussi dans l'essai ou la bande dessinée. Une catégorie qui a toujours ses adeptes aujourd'hui, mais qui a créé aussi une forte réaction. Des exemples, évidemment Putain de Nelly Arcan, Borderline de Marie-Cécile Labrèche ou Testament de Vicky Gendreau.
Paranoïaque, rouspète, pipette, pipette de hache, ça c'est de la marde, décor les chites, pipette fume pas. Et moi je m'en crisse, fume ou fume pas, c'est le même problème, moi j'en ai pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, rocher percé, t'en souviens-tu? Il est toujours là, il bouge pas. Y'a rien qu'un œil, mais il te regarde, ça c'est moi, toi tu me vois pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? C'est comme ton nom que tu regardes, pensant que c'est toi, mais c'est pas toi. Ton nom te suit, suis-là donc pas. C'est ma bebelle, c'est notre bebelle, moi je m'en occupe, occupe-toi pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut, même si ça pète, même si ça tonne, ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Toi tu l'as pas, mais ça viendra, moi je me sens venir, puis je veux revenir. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? J'suis défriché, pas défroqué, en dessous de mes cheveux j'ai ma tête. Un Québec love, ça c'est mon bar. Ah oui, ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pis les états, c'est ta personne, c'est ta babel. C'est pas notre bebel qui se l'arrache. Pis moi je m'en sac. Moi j'ai mon arche, arche de Noé. Oui, Noël, tremblé, ça c'est à nous autres. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Y'en a plus de Chris, y'a plus de Christmas. Qui se l'arrache leur Santa Claus de chez Simpson, puis de chez Eaton. Moi je me contente de Dupuis frère, moi je me contente d'Homer de Serre. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pacifique plan, crunch les Anglais. Pacifiquement, si c'est possible, si c'est possible, pacifiquement. Je l'ai pas, donne-moi un gun, donne-moi un gun, moi je m'en occupe. Comprends-tu ça, comprends-tu ça?
Robert Charlebois et Québec Love.
Il nous reste assez de temps pour aborder un texte de devoir dont je rêvais de vous parler ce matin, puisque c'est un peu un pavé dans la mare, un tabou brisé, vous allez voir de quelle nature. Guillaume Bourgault-Côté titre son texte « Femmes autochtones, ouvrir les yeux sur la violence intérieure ». La violence en milieu autochtone est aussi un problème qui provient de l'intérieur des communautés, est venu témoigner jeudi l'ancienne chef de Kitchiasakik lors de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La violence ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nos communautés, a soutenu Adrienne Anishinaabe-Peau. C'est très minime ce qui provient de l'extérieur. Tous les abus, c'est de l'intérieur que ça vient. Et des violences, Mme Anishinaabe-Peau affirme en avoir vécu beaucoup. dans sa vie personnelle d'abord, violence sexuelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Chef de cette petite communauté abitibienne de 2009 à 2017, Adrienne Anishinaabe-Peo a raconté au commissaire le lourd tribut payé à être une femme qui exerce cette fonction. On paie cher, des fois, dans notre communauté. Le fait de vouloir s'impliquer à l'améliorer, a-t-elle affirmé. Les violences que j'ai vécues m'ont amené à avoir des idées suicidaires, a confié Mme Anishinaabe-Peo dans un témoignage de près de 90 minutes, entrecoupé de plusieurs sanglots. Les blessures que j'ai vécues sont toujours là. Intimidation, harcèlement, menaces. L'Algonquine a énuméré ce qu'être chef d'une communauté frappée de graves problèmes, absence d'eau et d'électricité, peut subir. Une violence de tous les jours. J'étais comme un punching bag, nourri aussi de tout un contexte plus large. On souffre tous, a-t-elle dit, en parlant des hommes et des femmes de sa communauté. Chacun victime à sa façon des cycles de violence, de pauvreté, de problèmes de consommation. Sa sœur Catherine, aussi présente jeudi matin, a raconté avoir dû quitter sa communauté en 1994 parce qu'elle n'acceptait plus la violence. Au début des années 90, elle avait dénoncé le problème des agressions sexuelles dans sa communauté. « Vous avez été les premiers à le faire », a d'ailleurs souligné la commissaire Michèle Audette. Le témoignage d'Adrienne Anishinaabe-Peo a frappé Mme Audette. C'est la première fois, dans le cadre de cette enquête, qu'on accueille quelqu'un qui nous dit comment ça se passe quand on est une femme en politique qui veut le changement, a-t-elle dit aux quelques dizaines de spectateurs présents au quatrième jour des audiences montréalaises de la Commission. Tous les dommages collatéraux, la violence. On demande aux femmes de se lever, de dénoncer, de faire le changement en politique, mais on oublie que la communauté, peut-être, n'est pas prête. Madame Audette a aussi souligné que ce témoignage abordait un tabou. On sait d'où vient notre souffrance, la loi sur les Indiens, les écoles résidentielles, la colonisation, mais on ne peut plus juste blâmer ça. La violence se passe dans nos communautés et elle se passe aujourd'hui. Un autre témoignage, celui de Linou Nathalie Hervieux, est venu souligner les innombrables conséquences que la violence sexuelle et physique provoque à long terme. Elle a raconté avoir subi des attouchements sexuels dès l'âge de 4 ou 5 ans, puis de l'inceste, puis un viol. « J'ai vécu à travers les attouchements par des vieux, par des personnes de la communauté. » Pensées suicidaires, problèmes d'alcool et de jeu, violence latérale au sein de la famille, et qu'elle-même a répété sur ses enfants. Madame Hervieux a tout dévoilé, lentement, en pleurant souvent. Pour conclure ainsi, je me sens honoré d'être ici. Le genre de témoignages que Michèle Audette écoute beaucoup depuis quelques mois, mais qui sont toujours essentiels, pense-t-elle. Si le Canada a besoin d'entendre ça, il faut prendre ce temps-là. Sujet beaucoup plus léger qui nous vient du Journal de Montréal. Karl Vaillancourt nous parle d'un homme qui a reçu une facture d'Hydro-Québec. Vous me direz, il n'y a rien là de très étonnant. Hydro lui envoie une facture de 2 cents. Un entrepreneur montréalais a reçu une facture de 2 cents de la part d'Hydro-Québec, ce qu'il juge ridicule. Mike Skillis a pour habitude de régler ses factures mensuelles directement avec son institution financière depuis qu'il s'est lancé en affaires il y a 4 ans. Toutefois, un changement de local commercial l'an dernier a fait en sorte qu'il a vu sa facture être recalculée par la société d'État. Il y a quelques jours, son entreprise Skillis et Sundstrom a reçu un relevé quant à sa consommation d'énergie affichant un solde de 2 cents, ce qui a exaspéré le propriétaire. Les frais de transaction bancaire s'élèvent à plus de 1 $ alors que je dois payer 2 sous. Ça a assurément coûté plus cher produire la facture que le montant qu'on me réclame. On aurait pu ajouter ce montant sur ma prochaine facture. Je ne peux même pas payer comptant car c'est arrondi à zéro, a expliqué le président de l'entreprise spécialisée en aménagement de salles de bain. Selon les informations obtenues par le journal, les frais liés à l'envoi des 25 millions de factures imprimées par année aux clients d'Hydro-Québec représentent un coût de 16,5 millions annuellement. Chaque compte papier représente un coût unitaire de 66 sous, soit 33 fois plus que le solde impayé de M. Skillis. Une lettre écrite dans les pages de La Voix de l'Est par Sylvain Charlebois qui s'intéresse aux bébites dans nos assiettes. L'auteur est originaire de Farnham, c'est le doyen de la faculté de management et le professeur titulaire en distribution et politique agroalimentaire de l'Université de Dallas. Pas moins de 80% de la population mondiale mange quotidiennement des insectes. L'Oblat Provigo nous offre dorénavant de la poudre de grillon de la marque Le Choix du Président, rien de moins. Pendant que plusieurs voudront éviter le produit comme la peste, certains curieux voudront peut-être se laisser tenter. Mais le geste de l'Oblat Provigo nous indique que la vente de bébites au Canada ne fait